Good Morning Business, le grand entretien.
Et à 8h, presque 8h20, c'est Marianne Barba-Layani, la présidente de l'Autorité des marchés financiers, qui est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur ce plateau. 3 semaines à peine après votre nomination à la tête de l'AMF. Il faut dire qu'on a plein de questions à vous poser, que beaucoup d'investisseurs sont inquiets, notamment sur le marché des cryptos. Bien sûr, c'est pas un marché régulé. Bien sûr, ça ne vous concerne que partiellement, mais quand même, ça concerne beaucoup d'investisseurs, beaucoup de jeunes qui ont investi sur les cryptos, qui se demandent s'ils vont tout perdre.
Alors, c'est une affaire qui est grave, en fait. D'abord parce qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Et qui ont peut-être tout perdu, on ne sait pas.
Ceux qui étaient sur la plateforme FTX,
effectivement. Donc après, il faut qu'ils sachent, et je le dis aujourd'hui, je profite d'être sur votre antenne pour le dire, c'est un marché qui est à 99% non régulé.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a un petit peu été précurseur en France avec la loi Pacte, il y a un dispositif d'enregistrement, il y aura une régulation européenne qui va entrer en vigueur d'ici à peu près 2 ans et qui ira plus loin. Mais pour l'instant, c'est un secteur non régulé. Donc, il faut le savoir. Il faut que les gens sachent que quand ils investissent dans ce domaine-là, eh bien, ils ne bénéficient pas de tout le dispositif de protection qui a été mis en place progressivement pour les actions, les obligations, etc. Le secteur financier régulé un peu classique. Bon. Donc, effectivement, oui, c'est une affaire qui est grave. Et c'est un peu l'heure de vérité, je pense, pour l'univers des cryptos. C'est-à-dire qu'il va falloir que cet univers montre son intégrité et montre son utilité sociale. Voilà.
Mais vous avez l'impression vraiment que c'est nécessaire de redire que c'est pas régulé, qu'on peut perdre beaucoup d'argent. C'était pas clair. Moi, j'ai l'impression qu'on fait un peu semblant. Ça me paraissait quand même évident que on pouvait perdre de l'argent et que c'était risqué, puisque c'est même presque la com des cryptos.
Mais la vérité, c'est que vous avez toute une série d'investisseurs qui investissent dans les cryptos, sans aucun doute. Donc, vous avez les investisseurs très avertis, qui savent qu'ils prennent beaucoup de risques, peut-être en espérant avoir des rendements très élevés. Et puis, vous avez malheureusement toute une catégorie d'investisseurs qui sont souvent des jeunes et qui ne bénéficient pas, dirons-nous, de toute l'expérience des investisseurs plus traditionnels, qui sont parfois un peu appâtés par des influenceurs, par tout un univers, effectivement, qui est assez attractif. Et donc, là encore, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas tuer l'innovation, il ne faut pas...
Vous croyez à cette finance décentralisée, au cryptage, vous croyez aux cryptos ?
Mais je pense que c'est aux cryptos de montrer à quoi elles servent. Mmh. Quelle est leur utilité ? Qu'est-ce qu'elles apportent en termes de financement de l'économie ? Qu'est-ce qu'elles apportent ? Il y a des réalités. Elles ont apporté des technologies qui sont très intéressantes, par exemple. Mais maintenant, vis-à-vis des investisseurs, il y a quand même, encore une fois, l'affaire, elle est grave parce qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Peut-être des gens qui ne pouvaient pas se permettre de perdre cet argent. Donc, ça renvoie à toute la problématique de la communication, de l'information financière.
Et ça, on ne peut rien pour eux.
Il y a un liquidateur qui a été nommé par les autorités américaines. Encore une fois, ce n'est pas un acteur français. Et qui va essayer de voir ce que l'on peut récupérer sur les actifs.
Apparemment, pas grand-chose.
C'est un peu ce qu'on lit, mais là,
c'est aux cryptos de prouver leur utilité, etc. Mais vous, en tant qu'AMF, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre Nabila qui dit « Allez-y, investissez ». Franchement, qu'est-ce que vous pouvez faire ?
La première chose que l'on peut faire, c'est d'abord, effectivement, d'avertir les investisseurs en leur disant tout simplement « Si vous prenez des risques, sachez que vous prenez des risques ». N'y allez pas naïvement en pensant que c'est un jeu, que c'est votre argent. Donc, vous pouvez gagner de l'argent.
Mais peut-être. C'est un jeu de com. C'est-à-dire qu'il vous faut que vous alliez sur Instagram.
Mais c'est un gros enjeu pour nous. Ça, c'est pour moi le gros enjeu très direct pour l'AMF. Mmh. C'est effectivement d'arriver à aller chercher un peu plus loin qu'on ne l'a fait, même si l'AMF a déjà été très active dans ces domaines, aller chercher un peu plus loin qu'on ne l'a fait en termes de pédagogie et d'information, des gens qui ne sont pas notre public naturel. Voilà. Et après, quand vous parlez des influenceurs, d'ailleurs, les influenceurs, il y a déjà eu des sanctions. Là, il y a eu une articulation assez efficace, d'ailleurs, entre l'AMF qui a identifié, la DGCCRF qui a sanctionné. Donc, c'est peut-être un domaine dans lequel il faut qu'on aille encore de l'avant, c'est évident.
Est-ce que vous êtes inquiète sur un risque systémique ? Parce que vous avez écrit, vous avez envoyé un mail, il y a quelques jours, aux acteurs enregistrés sous le statut de prestataire de services sous-actifs pour leur demander, pour connaître leur exposition à FTX. Est-ce que ça veut dire que potentiellement la faillite de FTX peut entraîner dans sa chute d'autres acteurs ?
Alors, il faut raison garder. Quand on parle de risque systémique, ça serait effectivement une grande crise financière, etc. On n'en est pas du tout là. Ce qu'on essaye de savoir avec les interrogations qu'on a envoyées, c'est les acteurs qui sont sur le marché français, quelle est leur exposition à FTX ? Mais je parle des acteurs crypto. Ouais. C'est-à-dire, grosso modo, il y a une cinquantaine d'acteurs crypto qui sont enregistrés sur le marché français.
Vous avez eu des réponses, d'ailleurs ?
Je pense qu'on commence à recevoir des réponses. Bon, on va effectivement décortiquer tout ça. Après, ce qui est un sujet qu'il faut qu'on regarde d'assez près, et on en a parlé avec les régulateurs européens, j'étais au conseil d'administration de l'autorité européenne la semaine dernière, c'est il y a deux sujets. Il y a le sujet de la protection des investisseurs. On vient d'en parler. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin, beaucoup plus fort pour donner l'information nécessaire et mettre les points d'attention nécessaires. Et puis, il y a la question des liens qui peuvent exister entre les différents acteurs crypto, donc dans leur univers crypto, et puis avec un certain nombre d'univers de finances traditionnelles qui peuvent avoir investi dans les cryptos. Pour l'instant, c'est assez limité, d'après ce qu'on peut savoir, mais c'est effectivement un point d'attention. Il faut qu'on regarde ça.
Il n'y a pas que le dossier crypto sur le bureau de l'AMF, il y a aussi le dossier EDF, par exemple, à regarder de près. Il y a une décision qui doit être rendue apparemment demain. Il y a eu 15 jours de retard sur les 15, un peu plus de 15% que doit récupérer l'État. Qu'est-ce qui coince ?
Alors, il n'y a rien qui coince, il n'y a aucun retard. Donc, je vais être très claire, il y avait un calendrier qui était publié, comme dans toutes les offres, qui était un calendrier indicatif.
On parle de renationalisation d'EDF.
D'OPA simplifié avec donc un rachat des minoritaires. Donc on parle de quelque chose qui est au fond relativement classique. Ce qui est moins classique, c'est que EDF, c'est une énorme entreprise, qui est une très belle entreprise française, qui joue un rôle très important. Donc c'est pour ça que ça attire beaucoup le feu des projecteurs.
Il y a eu un recours de certains minoritaires contre le prix offert par l'État.
Alors, il y a eu des recours des minoritaires. Là aussi, je pense que sur des grosses opérations, c'est relativement classique. Il y a eu un premier recours qui était un recours en référé contre la décision du conseil d'administration d'EDF, qui a d'ailleurs été rejetée. Et puis là, effectivement, les minoritaires nous écrivent très massivement, feront certainement des recours. Bon, là aussi, il faut raison garder, il faut garder le cap, c'est-à-dire qu'il faut regarder ce que on est, nous, AMF, en charge de vérifier.
C'est quoi, qu'est-ce que vous êtes en charge de vérifier,
Alors, ça, c'est important de le dire. C'est pas nous qui fixons le prix.
Non.
Nous, on vérifie la conformité de l'offre, c'est-à-dire qu'on va regarder de très très près, et je vous assure qu'on est en train de le faire, d'ailleurs, on va regarder de très très près comment l'évaluation a été faite par un expert indépendant. Il y a d'une part le prix qui a été proposé par l'initiateur de l'offre. Il y a un expert indépendant qui a tout redécortiqué. Et donc, nous vérifions que tout ce qui a été fait de manière sérieuse et de manière effectivement à protéger le droit des actionnaires minoritaires. La deuxième chose qu'on vérifie, c'est l'information. C'est-à-dire, est-ce que l'information nécessaire pour que les gens se forment leur opinion et décident tout simplement d'apporter ou pas leur titre à l'offre, est-ce que cette information, elle a été suffisamment détaillée et disponible ? Voilà, c'est les deux choses qu'on vérifie.
Réponse demain.
Pas de retard.
Réponse demain.
J'ai toujours dit que l'AMF prendrait le temps nécessaire pour examiner cette offre. Donc, je peux vous assurer, sans rentrer dans le détail, que nous nous sommes mis en situation de regarder de manière très approfondie ce dossier, parce qu'on sait que c'est un dossier qui est très important, qui est très emblématique. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire durer éternellement l'examen, parce qu'encore une fois, c'est quand même pas non plus une opération qui n'a pas de précédent en termes de modalité. Comme je le dis, il y a un expert indépendant, ce dont il faut qu'on s'assure, c'est qu'il a vraiment fait correctement son travail et qu'on peut rassurer les actionnaires minoritaires. Après, ils prendront leurs décisions, bien sûr.
Réponse demain ?
Je ne peux pas vous dire. L'AMF, il faut bien le comprendre, et j'ai vraiment pris conscience de ça encore plus que je ne le pensais, c'est une autorité collégiale. On a un collège avec des gens qui sont des gens de très grande qualité, qui représentent des savoir-faire, des connaissances un peu différentes. Et donc ce collège, il examine les offres, il examine les opérations. Bon
ça veut dire qu'il y a des débats en tout cas.
Il y a des discussions chez vous à l'AMF. Merci beaucoup Marianne Barbalayani d'avoir été avec nous. Vous souhaite bonne route puisque vous venez juste d'arriver à l'AMF. Vous pouvez réécouter cette interview en replay et en podcast.